Et le journal vous est présenté par Maxime Fayol. Bonjour Maxime.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Un accord historique entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Les deux pays vont normaliser leurs relations. Résultat de la négociation menée sous l'égide des États-Unis.
En Biélorussie, la répression des manifestants se fait toujours dans la violence. Témoignage à suivre d'un jeune homme de Minsk qui proteste depuis plusieurs jours contre la réélection d'Alexandre Loukachenko.
En France, les chiffres de contamination à la Covid-19 sont mauvais sur cette dernière semaine et les tensions se multiplient dans la société autour du port du masque. Analyse du sociologue Laurent Mucchielli sur plusieurs altercations ces derniers jours.
Et puis l'hommage de Jean Castex aux humanitaires morts au Niger la semaine dernière. Les corps des 6 Français doivent arriver ce matin à Orly. Une cérémonie sobre est prévue, nous dira Sophie Delpont.
Les Émirats Arabes Unis deviennent donc le troisième pays arabe à reconnaître Israël après l'Égypte et la Jordanie. Accord historique négocié par les États-Unis qui va ouvrir la voie à des ententes bilatérales sur plusieurs secteurs comme le tourisme, la santé ou encore la culture. L'accord doit surtout mettre fin, Alice Froussard, au récent projet d'annexion en Cisjordanie occupée.
Fier, tout sourire, hier soir, peu après l'annonce, Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, se félicite.
C'est une soirée historique, une nouvelle ère commence dans les relations entre Israël et le monde arabe. J'ai participé à une conférence téléphonique avec le président américain Donald Trump et le prince héritier des Émirats, le cheikh Mohammed Ben Zayed. Nous avons décidé ensemble d'établir une paix pleine et formelle entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Un accord qui fait d'Abu Dhabi la troisième capitale arabe à normaliser ses relations avec Israël.
Un accord qui ferait d'Abu Dhabi la troisième capitale arabe a normalisé ses relations avec Israël et si Mohammed Ben Zayed se félicite d'avoir stoppé l'annexion de pans de la Cisjordanie comme il en est question, Netanyahou l'a précisé, il ne s'agit que d'une suspension du processus et non d'un abandon. La perspective n'est donc pas plus réjouissante côté palestinien, faux gagnant mais vrai perdant de cet accord, précise une jeune palestinienne.
Il y a évidemment de la colère, mais plus encore, on se sent trahi par les Émirats Arabes Unis, même si on savait depuis longtemps qu'ils normalisaient leurs relations avec Israël et ce, peu à peu, depuis des années. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une surprise car on ne savait pas que les Palestiniens n'ont pas été consultés. Et utiliser la cause palestinienne en disant suspendre l'annexion, c'est une insulte à toute personne intelligente dans le monde arabe.
Du côté de l'autorité palestinienne, cet accord est une trahison de Jérusalem et de toute la cause palestinienne. Mahmoud Abbas, le président, a aussitôt rappelé l'ambassadeur palestinien à Abu Dhabi.
Reportage d'Alice Froussard à Jérusalem. De leur côté, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. Le menu est copieux avec plusieurs dossiers. Évoquer la situation au Liban, 10 jours après l'explosion dans le port de Beyrouth. C'est en Méditerranée où la Grèce et la Turquie se jaugent en ce moment. La question des sanctions à la Biélorussie sera également évoquée. Des centaines de manifestants ont été emprisonnés, blessés ces derniers jours. 2 d'entre eux sont morts. Alexander fait partie de ceux qui protestent contre la réélection d'Alexandre Loukachenko.
La répression est chaque jour de plus en plus forte. La police est ultra agressive. J'ai des amis qui sont en prison. Plusieurs ont été transférés à l'hôpital et j'ai peur qu'ils soient en très mauvaise situation. Un de mes collègues a été arrêté entre sa maison et le travail. La police l'a tout de suite emmené en prison. En sortant, il m'a dit « Il faut voir le positif. Moi, je n'ai que quelques bleus sur le corps. » Et quand on voit les photos de ceux qui sortent de prison, ils sont tous blessés. Ce sont des conditions de guerre. Les gens sont allongés sur le sol, entassés les uns sur les autres. Les policiers frappent tout le monde. Ils ne donnent presque pas d'eau, pas d'accès aux toilettes. Je pense qu'après tout ça, beaucoup de gens auront disparu.
Témoignage d'Alexander, manifestant à Minsk avec Benjamin Recouvreur. Si vous souhaitez vous rendre au Royaume-Uni, il faudra désormais passer par une période de quatorzaine à partir de demain. Une mesure prise par Londres cette nuit en raison de la hausse des cas de Covid-19 en France. La France qui a tout de suite affirmé que des mesures de réciprocité seraient prises. Sur le fond de l'épidémie, les indicateurs sont tombés hier soir. La progression est au plus haut depuis la fin du confinement avec 2000 cas par jour en moyenne. C'est 3 fois plus que le mois dernier. Les hospitalisations baissent légèrement en revanche. Des chiffres qui rappellent la nécessité de respecter les gestes barrières et le port du masque, particulièrement dans les endroits clos. Ce n'est pas encore un automatisme dans la société. Ça crée parfois quelques tensions. Ces dernières semaines, plusieurs agressions ont d'ailleurs été signalées. Il y a le cas de cette infirmière agressée il y a quelques jours en Seine-Saint-Denis. Elle avait demandé à 2 jeunes de porter porter leur masque dans le bus. Ils sont d'ailleurs mis en examen aujourd'hui. En juillet, c'est un chauffeur de bus qui est mort à Bayonne pour cette même raison. Le sociologue Laurent Mukeli, spécialiste des questions de violence et d'insécurité, tente d'analyser ces événements.
Il y a certains des incidents qui, en fait, se sont déclenchés à l'occasion du masque, mais auraient pu se déclencher sur autre chose. Quand, par exemple, un petit groupe de deux ou trois grands adolescents entre en conflit avec le chauffeur d'un bus, par exemple, c'est des choses qu'on voit absolument tous les jours. Pas besoin du masque pour ça, ça pourrait être pour autre chose. Ensuite, il y a un phénomène qui est cette fois les altercations qui surviennent entre des personnes lambda, à propos du masque ou d'autres éléments, par exemple de la distance entre les personnes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir, qui sont beaucoup plus fréquentes que les quelques faits médiatisés, parce qu'au quotidien, elles sont pas très graves. C'est des choses que, pour ma part même, je peux observer régulièrement, que ce soit au supermarché, ou que j'ai eu l'occasion de voir à la plage, même cet été. Je sais que c'est pas politiquement correct, mais je vais te dire quand même, ce sont des choses qui sont directement provoquées par le climat de peur, qui est la stratégie politique dominante. Et c'est très dommageable, parce que ça met beaucoup de personnes en état de stress. Et on voit comme ça des querelles partir, avec des gens qui montent en tension et en émotion très très vite, qui se mettent à hurler, tout simplement parce que quelqu'un n'a pas mis son masque lorsqu'il s'est retourné vers eux, ou des choses comme ça, qui traduisent vraiment ça, un climat de panique qui met en stress certaines personnes, pas toutes évidemment. Et c'est pas la police qui va y faire quelque chose. Les policiers, je les ai vus intervenir comme ça sur une scène. Ils essayaient tranquillement de calmer un peu les gens qui ont fini par partir en criant chacun de leur côté. Bon, mais voilà, c'est pas une solution.
Le sociologue Laurent Mukeli, directeur de recherche au CNRS. Et si ces tensions existent, c'est aussi que les connaissances sur le virus sont encore partielles. Une question en particulier fait débat. Le virus se transmet-il uniquement par les gouttelettes projetées lorsque l'on parle, ou bien peut-il rester en suspension dans l'air? Une question complexe, Tara Schlegel, sur laquelle même l'OMS a changé d'avis.
Dès le 10 avril, l'Agence de santé publique américaine relayait les observations de chercheurs de l'hôpital de campagne à Wuhan, un hôpital construit en 10 jours. Dans les chambres de 15 malades en réanimation et de 24 moins sévèrement atteints, on a retrouvé des fragments de virus partout. Poubelles, fenêtres, souris d'ordinateur et même sous les semelles des soignants. L'idée que le virus stagne dans l'air et se dépose bien plus loin qu'à 1 mètre des malades fait alors son chemin. Le 16 avril, le New England Journal of Medicine publie son étude sur la durée de vie du virus sur les surfaces. Les chercheurs de Princeton et de UCLA en Californie affirment qu'il survit 4 heures sur du cuivre, 24 heures sur du carton. Et dans le cas des aérosols, quand on projette le virus dans l'air, on le retrouve pendant 3 heures dans des micro-gouttelettes. Mais dans les deux cas, aussi bien à Wuhan que dans les laboratoires américains, les scientifiques n'arrivent pas à dire si les fragments de virus retrouvés sont assez virulents pour contaminer des personnes saines. Cela dit, le doute a germé, peu à peu de très grands chercheurs évoque une transmission par aérosol dans les micro-gouttelettes, à commencer par Christian Drosten, l'éminent virologue allemand, qui rappelait le 12 mai dernier, dans un podcast, un déjeuner devenu célèbre en Chine. Le 24 janvier, à Canton, une femme a contaminé 3 de ses proches, mais surtout 5 autres clients dans un restaurant qui déjeunait à plus d'un mètre d'elle, probablement à cause de la climatisation. Drosten estime donc qu'environ la moitié des contaminations se fait par gouttelettes, l'autre moitié par aérosol et 10% par contact.
Tara Schlegel. Un hommage rendu aujourd'hui aux 6 Français morts au Niger dans une attaque dimanche dernier. Les dépouilles doivent arriver ce matin à l'aéroport d'Orly. Le Premier ministre Jean Castex va honorer leur mémoire au cours d'une cérémonie sobre, Sophie Delpont.
Un hommage public, mais dans un cadre intimiste, en conformité avec la volonté des familles. C'est ce qui domine l'organisation de cette journée, précise l'entourage du Premier ministre. Les corps des 6 humanitaires seront pris en charge dès leur arrivée sur le tarmac de l'aéroport d'Orly par le préfet de police de Paris et la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Les cercueils seront immédiatement installés dans le pavillon d'honneur de l'aéroport. Les familles des victimes seront accueillies à partir de 14h15 et un peu plus d'une heure plus tard, elles seront rejointes par le Premier ministre Jean Castex, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne. Les proches des 6 humanitaires pourront alors dire quelques mots en mémoire des victimes, ainsi que le représentant de leur ONG ACTED. Puis à 16h15, Jean Castex prononcera un discours d'une dizaine de minutes, un hommage rendu à l'engagement de ces jeunes humanitaires tués au Niger, mais aussi pour signifier la reconnaissance de la patrie envers les humanitaires et leur mission en France et dans le monde, souligne l'entourage du Premier ministre. La cérémonie se terminera par une minute de silence avant d'entendre la Marseillaise.
Sophie Delpont, c'est un vendredi pluvieux sur une grande partie du pays, particulièrement au nord. Des nuages attendus sur la façade ouest. Le soleil domine près de la Méditerranée. Les températures 17 à Brest, 19 à Bordeaux, 21 à Lille, 26 à Marseille.
Merci Maxime Fayolle. Il est 7h10.